Je suis Yael Bergman et vous écoutez Kia Ora. Aujourd'hui, 17 janvier, je suis à Christchurch, sur l'île du Sud toujours, et ce soir, je suis en compagnie de Ben. Salut.
Salut.
Bienvenue dans ce podcast.
Grand plaisir, merci.
Alors Ben, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter, sans tout dévoiler?
Sans tout dévoiler. Alors, je suis belge,
oui.
Francophone, je suis liégeois. Mmh. J'ai 28 ans, je suis actuellement à Christchurch également, évidemment, et ça fait maintenant 2 mois que je suis en Nouvelle-Zélande.
Ok, est-ce que tu es en PVT?
Je suis en PVT, effectivement.
Tu es là pour plusieurs mois.
Donc je suis là pour au moins 10 mois en tout sur le pays, en 10 mois et 12.
D'accord, et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Nouvelle-Zélande?
Alors, je savais qu'il y avait l'option d'un Working Holiday Visa. Mm-hmm. Ça m'intéressait de travailler parce que j'ai fait beaucoup de volontariat avant, donc il était temps de renflouer un peu les caisses. Dans les options, il y a pour les Belges, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Et en fait, j'hésitais plutôt entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande parce que je n'ai pas entendu parler du Canada. Je ne me suis pas plus renseigné que ça, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, en voyageant dans une auberge, j'hésitais entre les deux. Et je suis arrivé le jour où un groupe d'amis se retrouvait et s'étaient tous rencontrés en Nouvelle-Zélande en Working Holiday Visa.
Ah,
on était en Espagne, donc rien à voir. Okay. Et ils avaient également tous travaillé en Australie.
D'accord.
Donc j'ai pu leur poser mes questions, comparer les deux. Et je me suis dit que la Nouvelle-Zélande, c'était... L'Australie paraît géniale, évidemment, mais la Nouvelle-Zélande... C'est plus particulier, je pense. J'ai plus de connaissances qui sont allées voyager en Australie.
Okay.
Donc, la Nouvelle-Zélande a attiré un peu plus ma curiosité.
Okay. C'est quoi que tu penses qui est plus particulier ici?
Je pense que les paysages, ils sont incroyables. Mmh. Je suis sûr qu'il doit y avoir des paysages incroyables en Australie.
Ouais,
mais comme le pays ici est nettement plus petit, c'est aussi beaucoup plus facile de se dire en un an, j'ai le temps de tout voir, ou presque en tout cas. Tandis qu'en Australie, l'Australie, c'est plus grand que l'Europe. Donc... Voilà, en un an, c'est vraiment compliqué, surtout en bossant à chaque fois, 2 mois, à chaque endroit. Donc voilà, le fait de pouvoir vraiment découvrir le pays en quelques mois et une culture que je ne connais pas. Puis il y a l'aspect des Maoris aussi, qui est un peu particulier ici, que j'ai envie de connaître.
Mm-hmm.
Voilà, tout ça a fait que, allons-y pour la Nouvelle-Zélande.
Trop bien.
Voilà.
Et tu as déjà eu l'occasion d'un peu visiter ou là, tu bosses depuis que tu es arrivé?
Alors, j'ai visité, mais pas beaucoup. En fait, j'ai atterri à Auckland. Pendant une semaine, j'ai fait mes papiers et à l'auberge. Donc, c'était il y a 2 mois. Et 2 mois, ça veut dire en novembre, début novembre. Et à l'auberge, tout le monde parlait de rapidement aller sur l'île du Sud parce que, évidemment, en Nouvelle-Zélande, les saisons sont inversées.
Ouais.
Donc, l'été commençait. Et en hiver, il fait particulièrement plus froid dans l'île du Sud que sur l'île du Nord. Et du coup, tout le monde a envie de profiter de l'été dans l'île du Sud, qui est aussi la plus belle. Donc, j'ai directement pris un avion pour Christchurch. Et j'ai passé 2 jours à Christchurch et je suis arrivé ici à l'auberge pour commencer à bosser.
Okay.
Parce que j'avais déjà postulé quand j'étais à Auckland.
D'accord.
Et comme je n'avais pas encore de voiture et que je viens seulement de l'avoir maintenant, je n'ai pas encore su beaucoup explorer les environs.
J'ai fait
un petit peu, mais voilà, comme je travaille maintenant aussi 6 jours semaine, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. 5 jours puis 6 jours.
Tu auras le temps après, de toute façon.
Voilà, maintenant que j'ai la voiture aussi, ça va être beaucoup plus facile.
Alors justement, tu parlais de l'auberge, peut-être un petit mot sur cet endroit tout à fait insolite dans lequel on est
en ce moment. Ça aurait été bien de l'avoir en image.
On peut expliquer peut-être?
Oui, on peut expliquer. Alors c'est Jailhouse Accommodation. Et Jailhouse, c'était en fait une prison, une vraie prison ici. Et en 2006, elle était abandonnée. En fait, elle ne servait plus à rien. Mais la structure du bâtiment était intacte. Et du coup, les propriétaires actuels l'ont acheté en 2006 et l'ont entièrement rénové en auberge. C'est-à-dire que le bâtiment n'a pas changé, si ce n'est que les cellules sont devenues des chambres. On a juste bougé les toilettes des cellules et on y a mis des lits simples, lits doubles ou lits superposés. 2-3 dortoirs. Donc là, à mon avis, ils ont peut-être dû faire des aménagements parce que ce n'était probablement pas des cellules aussi grandes. Mais enfin, sinon, ça ressemble encore... tout à fait à la prison que c'était, si ce n'est que c'est quand même un peu plus joli que ce que c'était à l'époque.
C'est un concept vraiment incroyable. Je trouve que la déco est super bien faite. Il y a plein de petits détails
partout. Ils ont pas mal fait ça. Ils ont fait ça assez rapidement parce qu'ils l'ont acheté en 2006 et un an après, ça accueillait déjà les premiers clients. Alors qu'il y a une photo sur la page Instagram justement de l'auberge de avant-après.
D'accord.
Il y a eu du boulot et ils ont été vite quand même.
En tout cas, ceux qui sont dans le coin, je vous conseille de passer. Enfin, moi, personnellement, de prime abord, quand j'avais vu cette auberge sur Booking, je me suis dit, c'est beaucoup trop chelou comme endroit. Je vais pas aller dans une prison. Et maintenant que je suis là, j'aime vraiment bien l'idée. J'aime bien les auberges thématiques comme ça. Ça donne un petit cachet, en fait.
C'est la première fois que j'en vois une. Alors, ce que je n'ai pas dit dans le podcast, c'est que j'y suis manager. Donc ouais. J'y travaille en tant que co-manager. On est deux managers. Donc, voilà, quand j'ai vu sur... Il y a un site, en fait, qui permet aux personnes en PVT de trouver du boulot. C'est un site qui est connu de tous, qui s'appelle Backpacker Board. Mm-hmm. Donc, quand j'ai vu devenir manager dans une ancienne prison, ça a quand même attiré mon attention. Voilà, j'ai vite trouvé des photos de l'auberge. Je me suis dit que là, ça pouvait être une expérience.
Ouais. Alors, je veux revenir sur ce que tu as dit un peu plus tôt. Tu as dit que tu avais fait beaucoup de volontariat avant de bosser. Tu faisais des volontariats en Belgique ?
Non, je ne faisais pas de volontariat en Belgique. Alors, en fait, j'ai fait mes études universitaires. Mm-hmm. Et après mes études universitaires, j'avais très, très envie de voyager. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de prendre un an pour voyager à fond et de me débarrasser de cette envie de voyager.
Ça, on ne s'en débarrasse jamais. Hein.
Alors, ça, je ne le savais pas encore. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Et je voulais progresser en espagnol. Donc, j'avais juste eu un petit cours et je connaissais... J'étais jamais sorti de l'Europe.
Okay.
Et j'avais envie de voir plusieurs cultures. Donc là, il n'y avait plus qu'un endroit possible, c'était l'Amérique latine. Donc, je suis allé en Amérique latine et j'ai atterri à Buenos Aires, en Argentine. J'étais avec un ami. On a fait... évidemment, comme on sortait des études, on avait juste l'argent poche qu'on avait fait avec des petits jobs d'étudiants. Donc, pour voyager longtemps, puisqu'on voulait voyager un an et remonter jusqu'au nord de la Colombie, il fallait faire des volontariats. Ou travailler, mais enfin travailler niveau administratif, c'était un peu compliqué en Amérique latine et on gagne évidemment pas grand-chose. Donc, les volontariats, c'était le bon plan. Donc, j'en ai fait là, sauf qu'après 5 mois, le Covid a commencé là-bas.
Mais t'es parti quand? Parce que moi, j'ai exactement le même parcours que toi. Je suis partie en Amérique du Sud et j'ai fait des volontariats. Je suis arrivée à Buenos Aires.
Ah.
T'es parti quand?
Je suis parti fin 2019, puisqu'en 2020, ça
Bah, moi, c'était septembre 2019.
Ah ben, oui.
Et c'est peut-être de là que j'ai l'impression que je te connais, sans blague. Parce que quand je t'ai vu, je me suis dit, t'as peut-être me dit quelque chose.
Ben, écoute, je suis parti en octobre, début octobre 2019.
Bah, un mois avant moi, quoi. On a dû se croiser.
Hein, après, t'étais parti en septembre.
Ouais, après moi, je voulais dire.
Je suis parti un peu après toi. Ouais.
Et c'est trop marrant. On vient de la même ville, enfin du même pays, de la même ville, et on a fait presque le même voyage.
C'est trop, on s'est croisés en Amérique latine.
Et donc, tu as été rapatrié, toi, ou tu es parti
Alors, au début, en fait, officiellement, bon, j'étais naïf et j'avais, quelque part, on était un peu de mauvaise foi parce qu'on n'avait pas envie de rentrer.
Ouais.
Donc, je pense que ça nous a rendus un peu aveugles, mais officiellement, les chiffres en Amérique latine étaient beaucoup plus bas que ceux en Belgique au moment où ça a commencé. Et surtout, ça arrivait beaucoup plus tard en Amérique latine.
Ouais.
Donc, la Belgique était confinée, que nous, il n'y avait pas de problème, normale. On faisait la fête là-bas.
T'étais où à ce moment-là?
À ce moment-là, quand ça a commencé en Belgique, j'étais au Pérou.
Ok.
Non, j'étais en Bolivie quand on commençait à en parler.
Mais moi
j'étais
aussi.
En Bolivie.
On était dans le même avion, je pense. Le rapatriement.
Bah, si ça se trouve, j'étais à Sucre, en Bolivie.
Mais moi aussi.
T'étais à l'hostel...
Non, moi, il y avait que nous dans l'hostel à la fin. On n'était plus que deux.
Ah oui, non, mais je ne suis pas resté confiné là. Donc, c'est-à-dire, quand on a commencé à entendre parler du Covid, j'étais à Sucre en Bolivie. Là, on commençait juste à en entendre parler en Belgique, etc. Et on se méfiait en Amérique latine. Et puis, j'ai bougé, j'ai continué à voyager vers le nord et je suis arrivé dans le sud du Pérou.
Ah oui, ok.
Et là, j'ai commencé un volontariat. Et là, les chiffres ont vraiment explosé en Belgique. Tout le monde a été confiné.
Ouais.
Et officiellement, il commençait à y avoir des cas en Amérique latine, mais je pense qu'officiellement, au Pérou, il y avait 80 cas. Or, en fait,
c'est ce qu'ils ont dit.
C'est ridicule d'y croire, mais oui, parce que les capacités de testing étaient déjà nazes en Belgique à ce moment-là.
Non, c'est sûr.
Alors, il ne faut pas imaginer à quel point ils étaient nazes au Pérou, donc il y avait très certainement déjà beaucoup plus que 80 cas.
Ouais,
mais nous, ça nous arrangeait d'y croire. Mm-hmm. Et puis, alors, après, ça a été très, très vite parce que. Quand ça a vraiment explosé au Pérou, ils ont tout fermé du jour au lendemain. Mmh. En Belgique, ça a été petit à petit, il y a eu de plus en plus de mesures.
Ouais.
Au Pérou, moi, je suis sorti en boîte de nuit et le lendemain, on me réveillait dans mon lit. Le manager me réveillait dans mon lit pour dire que le président était en train de faire une annonce et qu'il fallait la traduire aux touristes.
Ah, d'accord.
Donc, j'écoutais le président en espagnol et je le traduisais en anglais aux touristes qui étaient sur place pour leur dire que on était tous bloqués et que tout était fermé et qu'on pouvait juste aller au supermarché, à la pharmacie ou à l'hôpital. Mmh. Les militaires étaient dans la rue à partir de 18h. Des cartes étaient distribuées aux familles pour leur donner 5 sorties par semaine. Nous, en tant que touristes, on y a échappé. puis c'était rapidement genré, c'est-à-dire que le lundi, mercredi, vendredi, les femmes étaient autorisées dans la rue, les autres jours, c'était les hommes, et dimanche, personne.
Ouais, nous, on avait un truc avec les numéros de passeport,
Ah oui.
les
Ah
pères ou
oui, père
impairs, ou
ou
je sais pas
impair,
quoi. Hein.
oui.
En
Ouais.
Bolivie, c'était comme ça.
Nous, je crois qu'on y échappait. J'avais entendu ça en Bolivie, je crois, mais
C'était
j'ai pas
complètement
vu.
faux.
Ouais,
Ça
c'était.
paraît si loin maintenant qu'on est là, à
Mais
voyager au bout
oui.
du monde, quoi.
Alors moi, j'ai refusé en fait les vols de rapatriement. Les premiers
D'accord.
vols de rapatriement belges, j'ai refusé parce que je.
Tu croyais vraiment que ça allait se passer?
Mais oui. Parce qu'on disait après 2 semaines, c'est fini,
Ouais, tout le monde a cru ça,
on a
mais
plus le
bon.
virus. Et du coup, ben, comme il faisait un lockdown de 2 semaines, je me suis dit, ben, parfait, dans 2 semaines, c'est fini ici
Et tu
et
continues.
basta. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça,
Non,
évidemment.
sans blague.
Donc, bon, ben, après, j'ai eu un second appel de l'ambassade belge, j'ai refusé. Puis j'ai eu un troisième, j'ai refusé. Et là, ils m'ont dit, attention, c'est le dernier, nous, on
C'était à quel
t'appellera
moment
plus.
là?
Là, on était en mars. On
Ok.
était en mars 2020. Fin mars.
Ouais, moi j'étais rapatriée fin mars, ouais.
Ouais, c'était fin mars. Ils me disent, écoute, c'est le dernier avion. Donc, voilà, est-ce que tu es bien conscient de ce que tu fais? Nous, on ne viendra pas te chercher. Ça veut dire que tu reviendras quand les frontières internationales réouvriront, parce que là, elles vont fermer pour de bon. Et moi, je dis, oui, pas de problème. Je m'en fous. Je me
Ah non, mais c'est
débrouillerai.
pas
Pas de
possible ce que
souci.
t'as fait.
Alors, est-ce qu'il s'est passé? Ils m'ont dit, bah, ok. Bon courage. Je dis merci, j'étais très confiant. Sauf que, nouvel élément modificateur, quelques jours après, le président, donc le Pérou est un pays très strict où il laissait aucun. Il n'y a pas moyen de voyager d'une ville à l'autre. Ça, c'était interdit. Hein, en taxi, voiture, le seul moyen d'aller d'une ville à une autre, c'était avec une ambassade, donc un bus organisé par une ambassade qui allait directement à l'aéroport militaire de Lima uniquement. Et c'était le seul moyen de voyager. Et alors, le président a fait un discours en disant que les seuls vols encore organisés, c'était des vols de rapatriement et qu'ils commençaient à en avoir marre parce que le Pérou, ben, évidemment, ils étaient stressés. Ils avaient un système hospitalier qui est très fragile. Donc, il a dit, ben, à partir du 22 avril, c'est fini, les vols de rapatriement. Donc, les touristes qui sont avec nous, vous avez jusqu'au 22 avril. Après ça, c'est fini et vous resterez avec nous jusqu'à ce que la situation s'améliore. Et là, je me suis dit, ah, ça sent mauvais quand même. Parce que là, je ne sais pas combien de temps je vais rester au Pérou, je n'ai pas de boulot, je ne vais pas en trouver pendant le Covid.
Non.
Donc là, ça sent mauvais. Donc là, j'ai envoyé un petit email à l'ambassade belge en disant, voilà,
Change d'avis.
ben, il était trop tard, mais je leur ai dit, écoutez, voilà, vu le discours qui vient d'avoir lieu, ils étaient en contact avec les autres ambassades, et en fait, chaque vol européen avait un quota de minimum 10% de ressortissants européens qui étaient dans un autre pays. À prendre avec eux. Donc j'ai dit, si vous connaissez des vols qui s'organisent et des bus qui passent par Arequipa, parce que moi j'étais dans le sud du Pérou et
Oh,
il y
Arequipa,
avait.
c'est bien en plus.
Voilà, c'était bien, sauf que c'était à 400 km de Lima
Ouais.
encore, donc je
Et
pouvais
t'es
pas y aller.
parti d'où alors?
Ben, alors je leur ai dit ça et j'ai fini par trouver un bus, je crois que je l'avais trouvé moi-même avec l'ambassade italienne pour me
Ouais.
ramener jusqu'à Lima, sauf que je n'avais pas d'avion encore. Je voulais juste aller à Lima au
Ok.
cas où un avion se
Ouais,
libérait.
ouais.
Donc, je suis arrivé à Lima, j'ai une chambre dans une auberge, sauf que j'étais tout seul dans le dortoir parce qu'ils isolaient tout le monde. Je me souviens avoir ouvert les rideaux. On était le 19 avril, donc on était vraiment très très proche de la deadline.
Ouais.
J'avais demandé à être sur un vol français et un vol allemand, j'avais aucune nouvelle. Donc, je me souviens avoir ouvert les rideaux, avoir regardé la vue. Je me dis, bon, au moins j'ai une belle vue et il faut que je m'y habitue parce que j'y serai peut-être encore dans un an. Dans cette auberge, j'avais pas de nouvelles. Et le 20. Le 20 avril, donc je suis arrivé un peu plus tôt que ça, je suis arrivé le 17, et le 20, j'ai eu un appel de l'ambassade belge, qui est au courant que je cherchais un avion via une autre nation, qui m'ont dit, écoute, t'es pas le seul ressortissant belge bloqué à Lima, et il nous en reste également en Équateur, donc on va organiser exceptionnellement un nouveau vol pour
Oh
prendre les
là là là
ressortissants belges de Lima, faire une escale en Équateur, et puis revenir. Est-ce que cette fois-ci, on
là.
t'embarque? Je dis, oui, s'il vous plaît, cette fois-ci,
Ouais.
j'accepte, donc je suis rentré en Belgique comme ça.
T'as joué avec le feu quand même, hein?
Alors, ben,
Vu maintenant ce
oui,
qu'on
bon,
sait.
je pense qu'ils auraient quand même laissé les touristes rentrer chez eux et que
Bah ouais, mais s'il n'y avait
c'était un
plus de
coup de
vol.
pression, mais oui, parce qu'ils ont quand même craqué parce qu'il restait des gens après le 22 encore. Il y
Ouais,
avait
enfin moi je
encore
suis partie
beaucoup de
fin mars,
Français.
donc je suis partie de
Ah,
Sucre, enfin de Santa Cruz.
ah oui.
Un gros vol, hein. On était plus de 600, je pense. Donc,
Oui, c'était un gros vol aussi pour nous. Il restait encore
Waouh!
des gens, oui.
Ça me paraît si loin tout ça. Bon,
Ah oui.
là on voyage librement, tranquillement.
On voyage librement. Alors, je sais, ta question était par rapport au voyage à la Nouvelle-Zélande. Alors, moi, j'avais dit que je voulais voyager un an pour me
Ouais.
débarrasser de ça. Ça n'a pas duré un an. Donc, je me suis réinstallé en Belgique parce qu'il fallait bien trouver un
Ouais.
boulot, en disant tant pis, j'ai fait 5 mois et c'est comme ça, maintenant il faut se réinstaller. Sauf que, donc là, j'ai commencé à travailler dans le marketing, mais il n'y a pas un jour qui s'est passé sans que je repense à ce voyage, à ce que j'aurais pu faire et
Ouais.
à ce que je voulais. Et j'essaie de contenir ça un peu en moi, mais ça devenait de plus en plus gros. Alors, je suis passé à 4-5e, j'ai essayé de trouver d'autres projets, j'ai essayé de lancer, enfin, j'ai eu des projets de start-up, etc. Et puis à un moment, c'est juste devenu trop gros. Donc
Ça a pris toute la place.
voilà, là j'ai dit, là il faut que je le fasse, là il faut que je m'en aille, il faut que je continue.
C'est bien.
Donc oui, ça c'était il y a déjà un an et demi
Oui, donc tu as
déjà.
pris la décision il y a un an et demi, il a fallu le temps que ça se mette en place, que
Ah
tu...
non, pas du tout, non. J'ai pris la décision, j'ai démissionné d'un boulot, ça se passait bien, c'est juste
Ouais.
que j'avais cette envie-là.
Ouais.
Donc j'ai démissionné de mon boulot, j'ai vendu ma voiture, j'ai rendu mon appartement, j'ai donné des habits, mes habits à des associations, j'ai donné mes meubles. Et je suis d'abord parti voyager, j'ai traversé la France, puis j'ai voyagé en Espagne, je suis allé dans les Canaries, j'ai voulu traverser l'océan Atlantique en voilier pour retourner en Amérique latine.
Ah là
Puis pour
là.
finir, bon, j'ai 28 ans, je sais bien que les visas, si je veux faire un an en Nouvelle-Zélande,
Ouais.
potentiellement un an en Australie, il faut que ça se fasse avant 30 ans. Donc j'avais
Exactement.
peur d'arriver en Amérique latine et de ne pas pouvoir profiter comme je le voulais parce que
Ouais.
j'avais une deadline et je ne veux pas ça. Donc je suis revenu en Espagne, j'ai bossé pour TUI.
Ok.
Horrible expérience, horrible.
Attends, Tony, on peut expliquer pour ceux qui sont non belges, peut-être?
TUI, c'est une société de voyage international. Alors, certains pensent que c'est qu'une compagnie aérienne, mais non, c'est une compagnie. Ils font tout, en fait. Donc, ils ont des hôtels également, ou en
Ouais.
tout cas des hôtels partenaires, et ils organisent également des excursions. Donc, moi, j'étais représentant d'hôtel, c'est-à-dire que enfin, je vendais des excursions pour TUI, et surtout, je gérais les plaintes des clients.
Super comme
Voilà,
boulot, c'est
voilà,
dur.
voilà. Et beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de
Ouais.
manipulations. Ça, je n'ai pas du tout aimé. Et puis, ben, il est venu temps doucement d'aller en Nouvelle-Zélande. Je sentais que ça grandissait en moi et qu'à 28, et il
Ouais.
devenait, je commençais à être pressé par le temps. Donc, pour rentrer en Belgique, j'ai d'abord fait le Camino de Santiago en
T'as
partant.
fait quoi comme partie? Parce que ça m'interpelle de ouf.
Alors, j'ai très certainement pas fait la même que toi.
T'as la fait dans l'autre sens, toi, déjà?
Non,
Parce que tu
mais.
dis pour rentrer en Belgique, j'ai fait le parquet.
Alors, non, voilà, c'est que moi, j'étais dans le sud de l'Espagne,
Ouais.
donc à Estepona.
Ouais.
Et pour moi, le Camino de Santiago, c'était le Camino français, qui part du sud de la France et qui arrive
Ouais,
à
de
Saint-Jean-de-Compostelle.
Saint-Jean-Pied-de-Port que Saint-Jacques.
Voilà. Pour moi, il n'y avait que celui-là. En fait, à Estepona, j'organisais des randonnées pour l'auberge dans laquelle j'étais.
D'accord.
Et une fille m'a dit, mais le Camino de Santiago, ça ne te dit pas, tu pourrais le faire maintenant. Parce que je
Ouais.
lui disais, je ne sais pas quoi faire avant. Maintenant, mon départ en Nouvelle-Zélande, mais j'ai envie de partir.
Ouais.
Je lui dis, mais je ne vais pas remonter jusque dans le sud de la France pour faire ce chemin-là. C'est un peu ridicule. Mais qu'est-ce que tu me racontes
Il y a
des
plein de chemins.
Caminos? Ouais, il y en a plein. Je dis, ah bon, mais oui, il y en a qui partent de l'Espagne et tout. Donc là, ça a directement allumé une petite lumière en
Ouais.
moi. Je suis rentré, j'ai regardé les Caminos et j'ai vu que le plus proche partait de Séville.
Ouais.
Donc c'était pas très loin de Estepona, une petite centaine de kilomètres, peut-être 200 km d'Estepona, je crois. Donc j'ai fait celui de Séville, mais en
D'accord.
plein été.
Oh, c'est dur quand même.
Alors voilà, avec un sac à dos qui n'était pas du tout adapté, parce
Ouais.
que je l'avais pris pour voyager. Bon, c'était pas un sac à dos à roulettes, mais enfin, il n'était quand
Ok.
même pas adapté parce qu'il faisait. Je l'ai réduit, j'ai envoyé 10 kilos en Belgique, mais il me restait un sac à dos de 14 kilos,
Ah, ce qui est beaucoup quand
avec
même,
la
hein.
nourriture et l'eau. Mais
Ah, donc tu
enfin.
étais en totale autonomie?
Alors, totale autonomie, non, il fallait que je m'arrête dans des auberges, etc., parce que je n'avais pas d'allume-gaz, pas de bonbonne de
Ouais,
gaz
ok.
ou pas de tente non plus. Mais du coup, j'étais presque seul.
Ouais. Et
Parce
personne
que,
fait ce chemin. Enfin, pas beaucoup
ben,
comparé
alors
à...
déjà, c'est probablement le moins emprunté, mais personne ne le fait en
Ben
été
oui,
surtout.
c'est la pire saison, je
Sauf
pense.
que moi, ça se mettait juste bien avec les dates,
Ouais.
et je me suis dit, ouais, ça va le faire.
Ouais.
Alors, ça l'a fait.
Difficilement.
Voilà, il est moins compliqué, mais enfin, j'ai
Ça représente combien de
survécu.
kilomètres jusqu'à Saint-Jacques,
C'est
celui-là?
1000 km, celui-là.
Ah oui, il est pas mal quand même.
C'est pas
Ça t'a mis
mal,
combien de temps?
ouais. Ça m'a mis 35 jours.
Ok.
Ce qui est
Putain, mais
plus
tu marches
court,
vite.
alors c'est pas que je
Maintenant que je
m'argite.
calcule en même temps, je me dis, oulala.
Non, en fait, c'est qu'au début, j'ai vraiment galéré physiquement et surtout avec la chaleur
Ouais,
parce
je
que
comprends.
ça change vraiment tout, beaucoup plus encore que ce que je pensais. Et puis, mon sac, enfin voilà, j'étais pas, je faisais un peu de sport, mais j'étais pas préparé à ça. Et puis, les chaleurs se sont légèrement calmées parce qu'il y a eu aussi. Une période de canicule quand je l'ai
Oui.
fait, donc canicule en plein été, donc il faisait vraiment.
Ah
Donc
là
je devais
là.
partir à 5 h du matin en fait, parce que sinon
Oui,
il faisait beaucoup trop chaud. Parce que déjà à 11 h, il faisait 35 degrés.
oui.
Donc, mais un peu plus haut, là j'ai rencontré un Suisse qui lui marchait 42 km par jour. Mais lui, il était entraîné pour ça. Et comme j'avais un mariage en Belgique, et
Oui.
je leur avais dit, écoutez, moi, je serai pas là à temps, j'arriverai pas. Le Suisse m'a dit, un jour, on a marché seul, parce que, enfin, tous les deux, pardon, parce qu'il n'y avait pas le choix, il y avait une étape de 30, 36
Oui.
km. Bon, lui, il voulait faire une moyenne de 42, donc 36, voilà, c'était OK, parce que sinon, après, c'était 55, c'était un peu trop. Donc, j'ai marché avec lui, et le lendemain, il m'a dit, écoute, moi, je m'entends bien avec toi, j'ai pas croisé grand monde, tu m'as parlé de ton histoire de mariage. Si tu marches avec moi,
Tu seras à ton mariage.
tu seras au mariage. Donc je lui dis, oui, mais attends, mais tu t'es entraîné, tu as un petit
Oh
sac,
là
ou un
là là
gros
là.
sac, il fait chaud, et puis tu veux marcher 42 km par jour, c'est n'importe
C'est
quoi.
énorme, hein?
Voilà, et lui, il m'a dit, comme tu veux. Moi, je dis juste que tu
Oui.
seras à ton mariage, mais si tu veux pas, c'est comme tu veux.
T'as voulu relever le défi.
Ah là, il m'a piqué dans mon orgueil, je me suis dit, mais pour qui il se prend celui-là? Donc j'ai suivi ce Suisse, et du coup, j'ai
Waouh.
fini beaucoup plus rapidement que
Ouais,
prévu.
parce que 1000 km à 35 jours.
Ouais, les 2 dernières semaines, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres.
Ah ben chapeau, franchement. Et cette
Merci.
expérience,
Oui,
c'est
c'était une
cool.
expérience, c'est sûr.
C'était bien. C'était.
Alors.
Parce que c'est un peu venu comme ça, sur le tas, quoi.
Oui,
C'était pas trop
j'avais
préparé.
juste parlé de ça et ça m'a semblé sympa. Alors, c'était bien, je ne le regrette pas. J'en ai appris sur mon corps, j'en ai appris sur la rando, j'en ai appris sur les rencontres que j'ai faites, etc. Mais je ne le recommande pas parce qu'en fait, ce chemin, je recommande probablement Saint-Jacques de Compostelle,
Ouais, mais pas celui-là à cette
pas
période-là.
celui-là à cette période-là parce que c'est complètement désertique déjà,
C'est un peu
vraiment
fou,
désert.
honnêtement, qu'on se le dise.
Allez, en fait, il fait chaud, tout est brûlé partout. Je veux dire que
Ouais.
c'est du vrai désert.
Ouais, c'est pas
J'ai
terrible, quoi.
traversé des forêts que quand je suis arrivé presque dans le nord de l'Espagne, en fait, presque en Galice. Avant la
Ouais.
Galice,
Y a rien.
c'est le désert complet, même dans les villages dans lesquels on s'arrêtait. Parfois, les auberges étaient fermées, et du coup, il fallait faire 20 km de plus pour
Là
arriver à
là
l'autre.
là là.
Et
C'est
parfois,
une
même.
torture.
Oui,
C'est un
parfois,
vrai
même.
pèlerinage, c'est ce que t'as
C'était un vrai
fait.
pèlerinage, si ce n'est qu'il n'y a rien de catholique là-dedans, mais.
Non,
Il y avait même des petits villages où il n'y avait pas de magasin.
non.
Donc,
Faut être prêt, quoi.
ouais, il fallait que je me débrouille, que je fasse des plans sur quand est-ce que j'arriverai au village d'après, alors que je fasse mes courses et mon sac serait plus lourd, etc. Et on rentrait dans des calculs.
Ouais, je comprends.
Et voilà, j'étais tout seul. Donc, la première semaine, il y avait un Espagnol avec moi. Et en fait, les Espagnols, bah, souvent, ils font une semaine et puis ils rentrent à la maison. Parce qu'ils n'ont qu'une semaine de
Ouais.
congé et ils font ça, ils l'étalent sur plusieurs années. Puis après, pendant 2 semaines, j'étais tout seul en auberge. J'ai croisé personne, de temps en temps des cyclistes, mais j'étais tout seul pendant 2 semaines. Et ben, du coup, beaucoup de solitude.
Ouais.
Pas forcément évident, mais enfin, j'étais concentré sur le challenge. Et quand enfin, il y a eu des gens,
Ouais.
eh ben, en fait, c'était beaucoup de ronfleurs dans les dortoirs et je dormais très mal. Et donc, je regrettais de plus être tout seul. Mais bon. Voilà, oui, c'est une expérience,
Ouais.
je regrette pas, mais voilà, il faut se préparer psychologiquement, je pense,
Ouais,
parce que
surtout pour
bon.
la portion dont tu parles. Moi, j'ai fait une portion qui est déjà beaucoup plus fréquentée à une saison qui est moins chaude.
Ouais.
J'en ai pas l'expérience que toi t'as eue, tu vois,
Ouais,
forcément.
bah oui, c'est ça. Il faudrait que je fasse une partie du Camino
Ah,
plus
tu
sympa,
peux faire toutes les parties que
disons.
tu veux, mais la France, c'est des belles parties, hein.
T'as fait celui-là, le
Moi,
Camino
j'ai fait
Francés?
depuis jusqu'à Roncevaux, donc juste après la frontière espagnole. Donc, ça représente normalement, c'est 800 km, un truc comme ça. Moi, j'ai dû faire une partie en bus et une partie en voiture. J'avais trop mal aux pieds.
Mais
Mais oui, donc, moi, j'ai fait ça en 5 semaines et demie. Donc, tu vois, toi, t'es 35 jours, 1000 km.
oui.
C'est un autre niveau, hein.
Oui, non, c'était sympa, c'était
Ouais.
sympa.
Mais je vois que tu as une vie de voyage, en fait, depuis la fin de tes études. Et ça va pas s'arrêter, je pense, hein.
Alors, ouais, en fait, ça a même commencé un peu plus tôt. De base, j'étais très quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'étais plus conservateur, donc j'aimais pas le changement. Ça me paraissait complètement ridicule de quitter Liège alors que je m'amusais très bien là, j'avais mes amis, et je comprenais pas pourquoi les gens voulaient partir. Et puis doucement en supérieur, je me suis un peu ouvert et j'ai fait un premier Erasmus, mais pas loin. J'ai fait en fait un an en Flandre, juste pour m'améliorer en néerlandais,
T'as fait où?
à Gand.
Ouais, c'est la meilleure ville, il paraît.
C'est la meilleure ville, mais j'étais pas dans la meilleure école, donc
Ah.
j'ai pas du tout autant progressé en néerlandais qu'est-ce que
D'accord.
j'espérais. Mais enfin, en tout cas, c'était une expérience où pendant un an, j'étais seul et je suis enfin devenu un peu indépendant parce
Ouais.
que moi, je cuisinais jamais à la maison,
Ouais.
je faisais pas mon linge, je faisais pas les
Ouais.
courses. Et ben voilà, c'est bête, mais
Non, mais c'est vrai.
j'avais plus la voiture de papa et maman aussi,
Ouais.
donc il fallait tout le temps s'organiser en bus, en train.
Ouais.
Je faisais des trajets de train de 2 heures et demie à. C'était infernal, mais enfin, ça a fait beaucoup grandir.
Oui, c'est sûr.
Et comme j'avais fait un premier Erasmus en bachelier en Belgique, et bien en master, j'avais le droit de faire un Erasmus autre que la Belgique. Donc, j'avais le droit à faire deux Erasmus, en fait.
Ah oui, c'est bien ça.
Condition pour en faire deux, c'est qu'il y en a un des deux qui se fasse en Belgique.
C'est bien.
Donc, le deuxième, je l'ai fait en Lituanie.
Waouh,
Pour un tas de
c'est rare.
raisons. Oui. Je l'ai fait parce que l'UNIF était sympa, parce que la Lituanie, en fait, j'ai contacté des gens qui étaient.
Ouais.
Et les étudiants qui étaient trouvaient ça génial. Voilà, pas trop difficile non plus. Et comme c'est un petit pays, bon marché, très facile de vivre là pour peu cher. Et que c'est un petit pays, on peut aussi voyager dans les pays voisins
Ouais, t'as plein de
facilement.
choses à voir,
Voilà. Donc j'ai fait ça. Et là, j'ai vraiment, vraiment
hein.
adoré. Et là, ça a duré 4 mois. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est
Ouais.
allumé. Du coup.
Ouais, et maintenant je pense que ça va jamais s'éteindre, hein. Je te le dis déjà, donc.
Et oui, non, mais je te crois maintenant.
Je pense qu'une fois que t'as le virus, celui-là en tout cas, c'est pour
Oui.
toujours. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave, c'est génial en vrai. C'est juste, il faut adapter son mode de vie, quoi.
Ouais, bah là je le vis pas mal. Bon, bah, c'est sûr qu'il y aura des moments plus compliqués, probablement,
Ouais,
mais
t'auras sûrement envie de rentrer un moment et puis que tu repartiras. Moi, ça m'arrive souvent.
ouais.
Je reviens, je me réinstalle et puis après un an ou deux, je me dis, oh bah en fait, non, j'ai pas envie. Je repars.
Ouais, bah, peut-être,
Tu
je
verras
sais
bien, de toute
pas.
façon.
Ouais, tout est.
Comme on dit ici, no worries, tu te laisses porter par le flow. J'adore ça
Ouais,
dans ce pays.
je sais que tout peut changer donc.
Ouais.
Je planifie pas trop longtemps sur le
Ouais.
futur.
Non, c'est bien de rester open à ce qui se présente à toi.
Ah oui, j'essaye. J'aurais pas cru être en Nouvelle-Zélande si on me l'avait demandé il y a un an. J'aurais
Ouais.
dit non, je pense pas. L'Espagne, c'est bien l'Amérique latine, ouais.
Ouais. Tu
Mais bon.
retourneras peut-être finir ton voyage, moi je
Ah,
l'ai fait.
mais j'y retournerai. C'est sûr que je dois le finir parce que sinon, si je me réinstalle sans le finir, ça va
Il y
recommencer.
aura un goût de
Ça va
trop peu, ouais.
regrandir et je vais à nouveau exploser. Donc,
Prends le temps et fais les choses comme elles viennent.
Oui, je le finirai. Je le
Génial.
finirai, c'est sûr.
Écoute, Ben, merci pour toutes tes histoires. J'ai trouvé génial. Ça
Avec
m'a
grand
rappelé
plaisir.
plein de mes histoires aussi.
Oui.
Très, très belle rencontre et je te souhaite plein de voyages dans toute ta vie, en fait. Pas que maintenant, pour toujours.
Ben, merci. Je te souhaite un très bon voyage aussi et bonne chance avec ces petites interviews. Prends du plaisir.
Merci, j'adore faire ça. À bientôt.
À bientôt.
C'était Kia Ora, le podcast du bout du monde qui vous fait découvrir la Nouvelle-Zélande. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.